决心跟不决心的关系。
Hop. Alors je vais commencer par une bonne partie technique en fait, où je vais aborder différents sujets, donc les serveurs de nom, on va passer un petit peu de temps sur les fichiers de zone pour que vous voyez à quoi ça ressemblait pour ceux qui ne connaissent pas encore, quelques outils, et ensuite je vais passer une partie sur le côté politique et financier de l'affaire, et j'ai mis là-dedans les risques techniques qu'on rattache autour du DNS. Alors, donc le DNS, c'est un système qui permet de résoudre des noms en données. Donc résoudre, c'est en fait quand vous faites quand vous demandez une page sur Internet, donc par exemple www.grezy.org, c'est ce qui va vous permettre à votre ordinateur d'avoir l'adresse IP du serveur web de Grezy pour pouvoir ensuite afficher la page. Donc c'est ce système de correspondance-là entre les noms et les adresses IP. L'organisation de ce truc-là se fait de manière complètement arborescente, c'est-à-dire qu'il y a un point, enfin il y a une racine qu'on nomme point. Donc, petit troll pour les biologistes, la racine des arbres est en haut et jamais en bas en informatique. Et donc, sous la racine, on va trouver ce qu'on appelle des top level domains, donc c'est des domaines de tête en français. Il y en a de deux types principaux. Il y a des CCTLD, donc c'est Country Code Top Level Domain, donc c'est des domaines de tête qui sont rattachés à un pays, et des Global TLD, donc typiquement org, net, comme ce genre de choses. Ensuite, sous ces domaines de tête, on va pouvoir trouver des noms qui peuvent éventuellement correspondre directement à des adresses IP, ou il peut y avoir une arborescence qui va plus loin. Le nombre d'éléments est, je crois, à peu près infini sur l'arborescence. Quoi. Alors, par exemple, là, je vous ai mis les adresses IP que renvoient, en fait, tous ces noms de domaines. Donc, floem.resin.org, c'est cette adresse IP-là. sigal.grezy.org, c'est cette adresse IP-là. gep.grezy.org, c'est cette adresse IP. Le site web de la guilde, donc www.guilde.asso.fr, c'est l'adresse IP 195.5.240.86. Et l'adresse IP de resin.fr, c'est 91.216.110.20, qui renvoie aussi sur le site web. Alors, un petit historique. Donc voilà, le DNS, c'est un protocole qui permet de résoudre des noms en données, c'est comme ça qu'on dit. Et deuxième point de vocabulaire, en fait, la chose qui permet en fait de demander une adresse IP en donnant un nom, ça s'appelle une requête. Donc j'ai beaucoup employé ce nom-là, c'est pour ça que j'en parle. Alors, donc avant 1982, il y avait un fichier host.txt, donc qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans etc host sur Linux ou dans je ne sais plus quel chemin bizarre sous Windows. Et donc ce fichier-là était partagé en fait entre quasiment toutes les machines qui étaient sur Internet. Bon, c'était avant 82, les machines sur Internet, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc ça tenait la route. Donc ce fichier est défini dans la RFC 608, donc les RFC c'est les Request for Comments, c'est comme ça que s'établissent les normes sur Internet, c'est-à-dire que c'est un organisme qui s'appelle l'IETF, donc l'Internet Engineering Task Force, qui lance des groupes de travail sur certains sujets, et on arrive à des documents qui s'appellent donc des RFC, puisqu'on demande des commentaires dessus, qu'on établit en commun, alors n'importe qui peut participer. J'ai participé à une RFC sombre sur des histoires de DNS, enfin de Dane un peu plus loin, mais bon, disons qu'il y a un mot à moi dans la RFC, quoi, voilà. Donc en 1983, les gens ont commencé à se dire que le fichier host, ça allait pas tenir bien longtemps, et donc ils ont publié le design de ce système DNS dans deux RFC. Et en 1987, donc la norme DNS avec le protocole DNS a été publié donc dans les RFC 1034 et 1035. En 1987, quand on est passé en fait du fichier host.txt et que le DNS a commencé à être majoritairement utilisé, il y avait à peu près 5500 noms de domaines dans le fichier host et on était déjà à 20 000 dans le DNS. Alors, en 1994, donc il y a eu une RFC qui a normalisé donc les noms de domaines rattachés au pays. En 2003, il y a eu un nouveau format donc, qu'on appelait Punicode qui permet de créer des noms de domaines internationaux. Donc on peut avoir Potamocher avec l'accent, Académie française avec l'accent et la cédille. Et donc, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est le CCTLD chinois. Donc, l'équivalent de point de .cn chez nous, quoi. Donc, on va passer au côté technique. Alors, premièrement, il y a deux types de serveurs DNS différents. Donc là, on va commencer par s'attacher au serveur récursif, donc qu'on appelle aussi resolver, qu'on voit ici. Et le deuxième type de serveur, c'est les serveurs de nom, qu'on verra juste après. Donc ça, c'est le chemin qu'emprunte une requête DNS, donc quand vous voulez aller voir un site web, donc par exemple le site web de Grazy, donc la première étape, c'est que votre PC va demander en fait à son resolver, donc typiquement c'est une machine qui est soit chez vous, soit chez votre fournisseur d'accès. Ça peut aussi être une machine donc, qui est gérée sur un réseau local ou éventuellement un resolver externe. Donc Google par exemple fournit des resolvers externes, FDN aussi, il y a 2-3 autres comme ça qui fournissent des resolvers ouverts. Donc votre ordinateur va demander à son resolver, je veux l'adresse IP de www.grazy.org. Alors le resolver, on va admettre qu'il ne l'a pas dans le cache. Il va aller demander au serveur de nom de la racine, donc le point qu'on a vu sur le premier schéma, quelle est l'adresse IP de www.grazy.org. Alors le serveur de la racine, il n'en sait rien. Par contre, lui, ce qu'il a, c'est les adresses IP des serveurs de nom qui sont juste sous lui, donc DTLD. Et donc, il va dire, j'en sais rien, par contre, voilà l'adresse IP des serveurs de nom de .org, va leur demander à eux, il y a une chance qu'ils soient au courant. Donc le resolver va faire l'étape 4, donc demander l'adresse IP de www.grazy.org au serveur de nom de .org. Ce à quoi le serveur de nom de .org va répondre, donc étape 5, moi j'en sais rien, par contre, je sais que les NS, donc les serveurs de nom, NS c'est name server, hein, voilà. Les serveurs de nom de grazy.org sont à telle adresse IP, va leur demander à eux, ils devraient être au courant. Donc l'étape 6, le resolver va enfin demander au serveur de nom de grazy.org, et grazy.org va répondre avec l'adresse IP. Donc là j'ai mis une V6, hein, c'est le... On va pas utiliser le protocole du siècle dernier, qui est réponse d'adresse IP au resolver, et donc le resolver va pouvoir envoyer la réponse à l'application qui demande, donc en l'occurrence un navigateur par exemple. Donc voilà le chemin d'une requête, tout ce qui se passe quand vous tapez bêtement www.grazy.org dans votre navigateur. Alors, le resolver, là en plus, il garde du cache. Parce que ça, c'est aussi un truc typique en informatique, c'est que quand on veut retrouver une information facilement, on la cache. Et donc, le resolver garde ça dans sa mémoire, comme ça, si quelqu'un d'autre lui redemande, juste après, quelle est l'adresse IP du serveur web de Grazy, il va l'avoir dans sa mémoire, il va pouvoir répondre de suite, sans refaire toutes les étapes. Donc, le serveur récursif ou le resolver sert à répondre aux requêtes de clients à propos de n'importe quel nom. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un site web, mais ça peut être une adresse d'un serveur de mail ou quoi que ce soit d'autre. Et la seule chose dont les serveurs récursifs ou les resolvers, donc c'est la même chose, ont besoin, c'est la liste des IP des serveurs de la racine. Alors, les serveurs de la racine, dans tous les logiciels qui font des resolvers, c'est livré avec. Il y a 13 adresses IP. Ça change, il y a un changement tous les 4-5 ans en moyenne, on va dire, dedans. Et donc, c'est intégré, ça a le temps d'être intégré dans les mises à jour des logiciels. Alors, petit point, c'est que apprendre par cœur l'adresse IP d'un résolveur DNS ouvert, c'est une bonne idée, puisque ça permet d'éviter de se sortir de mauvais pas si on voit que le résolveur répond complètement n'importe quoi ou qu'on n'a pas de résolveur à portée de la main. Donc là, j'ai mis adresse IP des serveurs ouverts de FDN, il y a celui de LDN, donc les adresses IP V6 qui sont moins faciles à retenir. Et bon, après, il y a des gens qui proposent un serveur ouvert avec des adresses IP beaucoup plus faciles à retenir. Mais voilà, c'est Google, quoi.
D'ailleurs, excusez-moi, mais FDN, ça veut dire quoi ?
FDN, c'est French Data Network.
D'accord.
C'est le plus vieux fournisseur de France encore en activité, sous la forme d'une association, la 1901. D'accord. Alors, Donc maintenant, je passe au serveur qui fait autorité, donc ce qu'on appelait les serveurs de nom sur les étapes de résolution. Alors un serveur faisant autorité, c'est une définition qui est bien, ça, c'est qu'il fait autorité sur sa zone. C'est-à-dire que le serveur de nom de grisy.org, c'est lui qui va faire référence pour toutes les informations qui sont dans l'arbre sous grisy.org. Et donc les serveurs de la racine vont connaître toutes les adresses IP des serveurs des top-level domains. Et les serveurs d'un top-level domain, ils vont connaître tous les noms de premier niveau sous CTLD. Par exemple, les serveurs de .org, ils vont connaître toutes les adresses IP des serveurs en .org. Le plus gros dans le monde, c'est .com actuellement, qui est... je ne sais même pas combien d'enregistrements dedans, mais ça chiffre en millions ou en milliards. Alors ensuite, on a un mécanisme de délégation, donc ce qui permet en fait de déléguer des sous-zones d'une partie. Donc par exemple, le serveur de nom de .org va déléguer grisy.org au serveur de nom de grisy.org. Et donc on va utiliser pour ça un mécanisme qu'on appelle Glue Records. Il y avait un nom en français, mais je ne m'en souviens plus. Enfin, c'est de la colle, quoi, grosso modo. Et c'est une redondance d'informations qu'on va mettre à la fois dans la zone .org, par exemple, et dans la zone grisy.org. Et donc, on va mettre dans ces deux zones les enregistrements NS qui correspondent au nom de domaine, enfin, au nom de... Oui, au nom des serveurs, au serveur de nom, pardon, et les adresses IP de ces machines. Et donc ça, on va le mettre dans les deux zones, ce qui va permettre de s'y retrouver. Alors dans les serveurs de nom, on a deux types de serveurs. Il y a des serveurs maîtres et esclaves, ou primaires et secondaires. Alors la distinction entre les deux se fait en fait sur le serveur maître et une copie originale des données, c'est-à-dire qu'on va aller modifier les données directement sur le serveur maître. Et le serveur esclave va récupérer ces données depuis le serveur maître par des mécanismes donc, de modification et de transfert de zone que j'explicite un petit peu juste après. Alors, pour une zone, il existe au moins un serveur maître, puisque forcément, il faut bien aller modifier les données quelque part. Il peut exister plusieurs serveurs esclaves ou pas. Donc, ça, c'est suivant les gens qui administrent le nom de domaine en question, c'est variable. Et ensuite, on peut imaginer des mécanismes où les serveurs maîtres, en fait, vont être seulement requêtés par les serveurs esclaves qui vont garder des copies des zones, et c'est ceux-là qui vont être interrogés par le public seulement. C'est-à-dire que les serveurs maîtres peuvent être cachés, comme ça on est sûr qu'ils sont, ils gardent une copie cohérente des données et ils risquent moins de se faire attaquer. Donc voilà. On a une procédure de mise à jour donc, qui va toucher aux données sur les serveurs maîtres. Alors ça va de votre éditeur préféré, donc VI, si j'ai bien suivi, sur les fichiers de zone directement sur les serveurs. L'AFNIC par exemple qui gère le domaine de tête.fr n'utilise plus de fichiers de zone, donc ils ont une base de données dans lesquelles ils font les enregistrements directement. Et donc ces serveurs maîtres vont envoyer les données, donc j'ai mis copie de fichiers de zone, mais c'est pas forcément des fichiers de zone qui sont utilisés en fait, il y a une copie des données qui est envoyée au serveur esclave. Pour ça il y a deux mécanismes différents qui existent. Quand on va recharger en fait, les données sur un serveur maître, ça va envoyer ce qu'on appelle un notify aux serveurs esclaves qui sont référencés. Et donc, le serveur esclave va avoir une mise à jour de ces données. Et de temps en temps, le serveur esclave va faire une requête donc, qu'on appelle XFR aux serveurs maîtres qui sont référencés chez lui, pareil, pour savoir si par hasard, il n'y a pas eu une mise à jour qu'il aurait ratée. Et donc ça, c'est depuis Internet. Donc on va envoyer des requêtes DNS. Soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux, ça dépend. Donc si ces cinq serveurs-là, par exemple, sont référencés dans les NS d'une zone, ils vont pouvoir tous être interrogés depuis Internet.
Oui. Il y a deux maîtres enfin,
on peut... Alors on peut avoir deux maîtres, on peut avoir plusieurs maîtres, on peut en avoir... Il y en a au moins un, c'est sûr.
Ben oui, mais si tu modifies, tu modifies où alors? Sur n'importe lequel, et tu disposes entre eux alors?
Ben, là, en l'occurrence, tu modifies sur les deux si tu as plusieurs maîtres. Et mais il y a une procédure de mise à jour du coup qui est un peu plus complexe que juste aller toucher un fichier à ce moment-là. Si tu n'as qu'un serveur maître, tu peux avoir une procédure de mise à jour qui est très simple. Alors là, on va passer un bon moment sur les fichiers de zone. Donc, quel format ça a? Alors le format général d'un enregistrement DNS, donc c'est ça qu'on va mettre dans un fichier de zone. On a un nom qu'on va vouloir résoudre en une donnée. Alors le TTL, donc c'est le time to live, donc le temps de validité de l'enregistrement, qui est facultatif. Une classe, un type et la valeur, donc c'est celle qu'on va vouloir trouver. Donc là par exemple www.grizzly.org, ce sera le nom. On va dire in le type, donc on verra plus loin, et la valeur ce sera l'adresse IP. Donc voilà ce que c'est les différents champs qu'on voit ici. Donc l'enregistrement, la durée à conserver. Alors les classes, j'ai jamais vu utiliser que in sur quelques zones que ce soit. Dans le fin fond de la RFC, j'ai été trouver les autres classes qui existent, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Donc voilà, il y a le Chaos System et les IOD qui sont les autres classes que la RFC donne. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Le type, je le détaille juste sur le transparent d'après, et donc la valeur, c'est la valeur que va retourner l'enregistrement. Alors là, j'ai cité quelques types, sachant qu'il en existe d'autres, mais là, c'est avec ça, on a déjà de quoi faire. Donc NS, ça va désigner un serveur de nom, donc ça, c'est les enregistrements qu'on va retrouver dans les zones mères et les zones filles, des deux côtés, pour pouvoir retrouver nos keys. A, ça désigne une adresse IPv4, AAAA, c'est l'adresse IPv6. Alors pourquoi 4 reste? Tout simplement que IPv6 est... Il y a 4 fois plus de je sais plus quoi d'ailleurs.
De bits.
De bits, ouais, c'est ça. Bon, ça marche avec plein de choses. Ça marche avec plein de choses, du coup. C'est proportionnel, quoi. MX, ça désigne les serveurs de mail. Donc là, on va avoir un petit champ en plus qui va désigner une priorité entre les serveurs de mail, puisque c'est comme pour les serveurs DNS, on va avoir un primaire et un secondaire. CNAME, c'est un alias. Donc ça va pouvoir désigner. À la place de dire un nom pointe sur une adresse IP, on va pouvoir dire un nom pointe sur un autre nom. Et donc ça permet de faciliter des choses comme des migrations entre des serveurs et ainsi de suite. On a TXT qui désigne un enregistrement de texte, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. SRV, c'est un enregistrement de serveur. Alors après, j'ai des exemples, hein, vous inquiétez pas, là ça fait un peu touffu, mais on y passera un petit peu plus de temps. PTR, ça sert pour les enregistrements inverses, donc c'est ce qui va permettre de résoudre une adresse IP en un nom. Alors ça, c'est pour ceux qui étaient là l'année dernière à la conf sur le mail, c'est pas mal utilisé pour la lutte contre le spam, même si c'est plus très utile de nos jours, mais bon voilà, on fait ça quand même. Et alors pareil, j'ai été chercher dans le fin fond de la RFC un truc qu'on n'utilise jamais qui s'appelle Hinfo. Ça permet de donner des informations sur un équipement, donc le CPU et l'OS dans la RFC. Ça, j'ai vu utiliser ça quand même à Jitoyen.
Ouais, c'est juste. Ouais, c'est quoi DNAME?
Alors, DNAME, ça permet de faire un alias, oui, pardon, je vais zapper ça. C'est un alias sur tout un ensemble de sous-noms. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, www, c'est un alias de la machine qui fait le serveur web. Et on peut dire étoile.www, enfin juste 3, ça suffit, qui vont tous pointer sur la même machine. Donc par exemple a.www, ça pointera sur la machine, B et tous les noms qui vont dessous, un seul niveau par contre, ça va pointer sur la machine.
Mais du coup, si tu mets CNAME dans ta zone, ça revient au même.
CNAME, c'est pour un nom.
Ah ouais.
Et DNAME, c'est pour tout un ensemble de sous-noms. Alors, la syntaxe des fichiers de zone maintenant. Donc, la première chose, c'est que quand il y a un point virgule, ce qu'il y a derrière, c'est un commentaire. Dollar origin qui permet de fixer un suffixe. Donc, ça, c'est par exemple dans la zone de grizzly.org, on va dire dollar origin grizzly.org. Et sur tous les noms, on n'aura pas besoin de répéter .grizzly.org à la fin. Donc, oui. Et arrobas, donc ça va désigner le nom qui est défini avec origine. Donc dans la zone de grizzly.org, on va mettre un origine grizzly.org, et ensuite arrobas, ça voudra dire grizzly.org. Alors par exemple, voilà le début de la zone de grizzly. Donc le premier enregistrement qu'on a, c'est le start of authority. Donc ça, on va désigner le serveur qui est le début de l'autorité en fait. Et donc là, on retrouve ces informations-là. Donc, arrobas, du coup, là, c'est grésil.org. Et donc, le SOA, c'est ns2.grésil.org. Point. Alors, comme le disait Fabien, le point est important, là, parce que si on ne rajoute pas, il va rajouter à chaque fois .grésil.org derrière, quoi, puisqu'on a mis un origine. route.grésil.org, c'est une adresse mail dans laquelle le premier point va être remplacé par un arrobas pour pouvoir joindre les administrateurs de domaine-là. C'est un peu vicieux comme truc. Alors ensuite, on a le serial donc, qui correspond au numéro de série de la zone. Alors généralement, quand on édite les fichiers de zone à la main, on aime bien mettre un truc du genre voilà, 2016-01-03. Ce fichier-là, il a été modifié le 3 janvier 2016. Et il a été modifié donc une fois ce jour-là, puisqu'après on l'incrémente le nombre de fois qu'on le touche tous les jours. Ce truc-là, c'est important puisque c'est l'information sur laquelle vont se baser tous les serveurs esclaves pour savoir s'ils sont à jour ou pas. C'est-à-dire que si là, en l'occurrence, les esclaves de grésil.org ont une zone qui est 2015-12-10, par exemple, ils vont se dire « Ah ben tiens, je suis pas à jour, il faut que je récupère une copie des données. » Alors le refresh, là il faut que j'aille fouiller dans mes notes quand même parce que je me souviens jamais. Voilà, c'est le temps en fait entre deux demandes de synchronisation depuis les serveurs esclaves. Donc typiquement là les serveurs esclaves de grésil.org attendent une heure avant de redemander une mise à jour de la zone, enfin de redemander s'il faut qu'ils mettent à jour la zone. Le retry, donc c'est le temps que va attendre l'esclave si lors d'une demande de mise à jour de la zone, le maître est injoignable. Donc là, c'est 900 secondes. Si le maître est injoignable, il attend 900 secondes et il réessaye. Alors, l'expire, ça, c'est beaucoup plus grand. Là, de tête, je ne me souviens plus combien ça fait, mais ça doit faire un truc genre 4 jours, ça. Ça me paraît pas beaucoup, du coup. Donc c'est le... Non, c'est pas 4 jours, en fait. C'est beaucoup plus. Ça va peut-être être 15 jours, ça. C'est le temps pour lequel l'esclave va garder une copie de la zone s'il n'arrive pas à joindre le maître. Donc là, par exemple, le serveur ns2.grésil.org est mort voilà, pour une raison X ou Y. On a tous les serveurs esclaves qui vont garder une copie de la zone pendant... donc là, ça doit être 15 jours, 2 419 200 secondes. Et au bout de ce temps-là... Au bout de ce temps-là, ils vont considérer que la zone n'existe plus. Et donc, ce sera définitivement injoignable. Et donc, le négatif cache TTL ou minimum TTL, le dernier champ, c'est le champ que les serveurs récursifs ou les résolveurs vont garder une information qui vient de cette zone en cache. Donc le résolveur qui a récupéré l'adresse IP du serveur web de Grésil, il va la garder pendant une heure en cache. Et puis au bout d'une heure, il se dira, ah ben tiens, je vais aller voir si par hasard ça n'a pas changé.
C'est 28 jours.
28 jours donc. Merci Fabien, ça me perturbait beaucoup. Alors, on passe à la suite de la zone. Donc l'enregistrement SOA est sur le transparent d'avant. Et donc on va retrouver les premiers enregistrements généralement qu'on met, c'est donc les NS qui vont évidemment être les serveurs de nom de la zone. Alors en vrai il y en a plus que ça je crois, mais bon, faut bien faire rentrer ça quoi. Donc on a ns2.grésil.org et ns5.grenoble.net. Ensuite on a les MX donc, qui sont les serveurs qui vont recevoir le mail pour la zone grésil.org. C'est-à-dire que un serveur mail qui va envoyer un mail à quelque chose à grésil.org, il va s'adresser à ces deux serveurs-là. En priorité, il va utiliser celui qui a la plus... Donc ça, c'est la priorité, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Il va utiliser la priorité la plus basse. Donc il va d'abord essayer de joindre le serveur mx.grésil.org. Et s'il n'y arrive pas, pour une raison X ou Y, il va essayer sur nx1.grenoble.net, qui lui va pouvoir garder les mails en queue, éventuellement... les faire suivre ensuite à mx.grésil.org. Alors là, j'ai mis un enregistrement de TXT qui correspond au champ SPF. Donc SPF, c'est Sender Policy Framework. Donc pareil, si vous étiez là l'an dernier à la conf sur le mail, on a évoqué ça. C'est en fait ce champ-là, il sert pour la lutte contre le spam. Pour une zone, donc là pour grésil.org, on va dire tous les serveurs qui ont le droit d'envoyer du mail de cette zone. Donc... tous les mails avec un from quelque chose @grezi.org. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on prend les adresses IP, donc A, des champs MX, donc ça va être les adresses IP des deux MX, et puis dans le doute, on met point d'interrogation all, comme ça, ça veut dire que bon, ben, si c'est pas ces serveurs-là, c'est pas grave, tu peux quand même l'accepter. Ouais, c'est... Mais disons que si on met pas ça, Google refuse de recevoir des mails qui viennent de chez nous, donc voilà, c'est...
Ah oui.
C'est ça. Donc ensuite c'est des enregistrements plus classiques. Donc le arrobase c'est origine toujours, donc c'est grezi.org, ça va être ce site là qui correspond aussi à www en fait, .grezi.org, c'est la même adresse IP. Donc évidemment il faut mettre les adresses IP des serveurs MX et des serveurs NS qu'on a mis au-dessus, donc là j'ai mis les MX. Ensuite, on a web in A avec une adresse IP, étoile.web, donc ça c'est un équivalent à dename en fait. Étoile.web, c'est comme si on mettait web in dename web. Voilà. Et alors ensuite, j'ai mis des exemples d'enregistrement SRV, donc SRV ça permet de faire des choses un petit peu compliquées, comme du Jabber par exemple. Alors là, je me souviens plus exactement de la syntaxe, mais ça c'est un numéro de port. Et donc c'est on va spécifier _jabber.tcp, ça c'est pour dire enfin c'est dans la norme de Jabber, c'est ça va être expliqué, il faut aller lire l'IRFC quoi. Moi j'en ai assez lu pour cette conf comme ça, c'est bon. Et donc ça va être le dernier bout sur les fichiers de zone, c'est un petit exemple de zone reverse. Donc il y a deux zones reverse principales qui sont ip6.arpa qui correspond à l'ensemble des adresses IPv6, et in-addr.arpa, il y a le bon nombre, fais pas chier. donc in-addr.arpa, c'est l'espace d'adressage IPv4. Donc ça, en fait, les gens qui gèrent les adresses IP, donc en Europe, c'est le RIPE, on peut leur demander de déléguer un bloc à une structure. Donc par exemple, dans le... donc Grezi ne gère pas directement sa zone reverse, c'est Grenode qui le fait, mais dans les serveurs de nom de Grenode, on va trouver ça. Donc il dit, donc on va mettre un origine A, donc là c'est l'adresse IP, mais à l'envers, donc 91.216.110, et donc ensuite le 67, donc ça va être 67.110.216.91.in-addr.arpa. Ça va correspondre à la machine qui s'appelle fourmi.grezi.org. Pareil pour Sigal. Alors, c'est là qu'IPv6 c'est chiant. Alors, par contre, il y a un truc qui est vachement bien, c'est l'origine. Parce que là, du coup, on voit vite à quoi ça sert. Hein. alors là, c'est pareil. J'ai mis. Je me suis débrouillé pour que l'origine, en fait, rentre dans le slide en longueur et que les noms rentrent dans le slide en longueur aussi. En vrai, dans la zone, je crois qu'il y a juste 4 chiffres avec un origine vachement plus grand. Comme ça, c'est plus facile à lire par un humain. Voilà. Alors, pour finir le côté technique, je vous ai mis là quelques outils qui sont pratiques quand on joue avec le DNS. Alors, pour faire des requêtes DNS, il y a le premier utilitaire qu'on peut utiliser pour faire des requêtes DNS, c'est ping. Parce que ping, un nom, ça va résoudre l'adresse IP, il va vous donner l'adresse IP. Si vraiment vous êtes sur une machine où il n'y a rien, c'est utile à savoir. Ensuite, sur des Unix, on trouve généralement host, nslookup et dig. Nslookup, je crois que ça existe aussi sous Windows. Alors par contre, pour faire des requêtes et débugger un serveur DNS, savoir qu'est-ce qui répond, ainsi de suite, vraiment dig, c'est vraiment bien. En serveur récursif, alors j'en ai cité 3, je crois que c'est les seuls que je connais d'ailleurs. Y a Bind, Unbound et DNS Mask. Alors Bind est un peu spécial parce qu'il permet à la fois de faire un serveur récursif et un serveur qui fait autorité. Et il peut faire la même chose en même temps. Donc généralement on ne conseille pas de faire ça. Unbound il fait juste serveur récursif et... J'allais dire il le fait bien, mais j'ai trouvé un truc qui me plaît vraiment pas dedans récemment, mais bon voilà. Et alors DNS Mask permet aussi de faire serveur récursif et serveur faisant autorité, mais là c'est vraiment sur des tout petits réseaux. Et J'ai envie de dire que c'est encore plus facile de faire un DNS menteur avec qu'avec les autres, mais c'est peut-être pas vrai. Pour les serveurs faisant autorité, donc j'ai cité pareil Bind, NSD et Canot. Alors Bind, c'est développé par l'ISC, donc une boîte californienne, si mes souvenirs sont bons. NSD Unbound, c'est développé par je sais plus si c'est l'équivalent, ça doit être l'équivalent de l'AFNIC aux Pays-Bas. Et Canot est développé par l'équivalent de l'AFNIC en République tchèque. Et c'est un. Canot, c'est vraiment un petit logiciel que je trouve très beau. C'est simple, c'est bien. Alors ensuite, pour vérifier sur des serveurs, en fait là c'est pour vérifier sur des serveurs, on va vérifier des zones et ainsi de suite. Donc namedcheckconf et namedcheckzone permettent de vérifier la conf du serveur et des zones. Ensuite, on a check SOA qui vont permettre de vérifier des choses un peu plus poussées comme les correspondances des numéros de série des zones entre les maîtres et les esclaves. Et après, il y a ZoneMaster, donc qui est un outil web développé par l'AFNIC, donc qui gère les noms de domaines en .fr et leur équivalent en Suède, si mes souvenirs sont bons. Voilà, voilà. Donc là, on a fini la partie technique. On va pouvoir poser des trucs un peu rigolos. Alors, quand on fait un système de nommage, en fait, généralement, on cherche globalement ces qualités-là que j'ai listées. Donc, des identifiants qui sont humainement interprétables, des identifiants qui sont globalement uniques, c'est pratique, même si c'est pas forcément essentiel. Des identifiants qui sont stables dans le temps, c'est bien aussi. Des identifiants que, alors j'ai mis sur, mais c'est ça regroupe plusieurs choses en fait. C'est au niveau juridique qu'on va se prendre un procès pour X ou Y, ou au niveau financier que ça coûte pas trop cher, et au niveau technique évidemment qu'il n'y ait pas trop de failles de sécurité, que ce soit dans le protocole ou dans les implémentations du protocole. Alors, résolvable, bon, ben ça c'est évident, et on veut qu'avec l'identifiant ça puisse nous permettre d'accéder à une ressource derrière. Et enregistrable facilement, donc c'est toutes les procédures qui vont permettre d'enregistrer un identifiant qui correspond à quelque chose. Alors, sur les noms de domaine, donc humainement interprétable, ça c'est bon, hein, www.grezi.org, c'est quand même vachement plus parlant que 2001, 2.912, 2.410, 2.1, 2.2.4. Ça c'est. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, ça peut bien discuter, mais voilà. Alors, sur les DNS, on a des identifiants qui sont globalement uniques, et ça c'est permis par la gestion décentralisée en fait, donc on a une racine qui est unique. Et ensuite, chaque structure dessous peut faire à peu près ce qu'elle veut. Les noms de domaine sont relativement stables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les adresses IP qu'il y a derrière et ainsi de suite. Le nom de domaine, il va rester. Ça, c'est. Il faut juste. Voilà, c'est des choses qui vont rentrer là-dedans, c'est qu'il ne faut pas oublier de le payer, de l'enregistrer, enfin, de le repayer régulièrement. Ça nous est arrivé à Grezi il y a quelques années, pour info.
Ah ouais.
Ah ouais. Donc au niveau sûr, on a des risques, que ce soit juridiques, financiers ou techniques, qui sont pas insurmontables, mais bon, il y en a. Là, pour la résolution, évidemment, le DNS, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour ça, donc c'est pratique. Et sur les procédures d'enregistrement, on a parfois des choses un petit peu compliquées entre les systèmes de... Donc le prix, c'est pas forcément un problème, mais bon, les bureaux d'enregistrement et ainsi de suite, comment ça marche, on va y revenir un peu plus loin. J'ai mis, a priori, il n'est pas possible d'avoir toutes ces qualités à la fois. Si vous trouvez un truc qui résout la quadrature du cercle, mais notez-le dans un coin, ça peut servir. Alors, donc, voilà, les noms de domaine, ils sont globalement uniques, comme je disais, puisqu'on a une gestion qui est décentralisée. Donc pour avoir de nom dans la racine, donc en autre point, c'est l'ICANN. Donc l'ICANN, c'est, alors je ne me souviens plus du nom de l'acronyme, mais c'est une association de droit californien qui gère les ressources rares sur Internet. Donc en particulier, c'est eux qui attribuent des blocs d'adresse IP aux différents registres continentaux et ainsi de suite. Et c'est aussi eux qui gèrent l'espace des noms de domaine.
Names and numbers.
Ouais.
ça veut dire.
Et donc, pour avoir un nom d'empoint, depuis quelques années, les règles ont été assouplies. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un nombre fixe de TLD globaux et un nombre fixe de TLD par pays. Alors pour les TLD par pays, il faudrait qu'il y ait un nouveau pays qui se crée. Voilà. Enfin, quoique, on a vu un point BZH apparaître il n'y a pas longtemps, mais bon, voilà. J'aime bien les Bretons. Et donc c'est l'ICANN qui a fixé les règles. Les règles, c'est déjà pour commencer, juste pour déposer un dossier, c'est 180 000 dollars. Hein. Donc voilà. Pour avoir un nom d'un.fr, donc là c'est l'AFNIC, l'association française pour le nommage sur Internet en coopération, tu vas m'en souvenir, qui va fixer les règles. Alors l'AFNIC, donc c'est une association loi 1901, et c'est le gouvernement français qui a hérité du country code TLD.fr. qui en a délégué la gestion à l'AFNIC. Alors pour avoir un nom d'un.asso.fr, c'est l'AFNIC qui fixe les règles. Alors c'est l'AFNIC parce que c'est l'AFNIC qui a déposé le nom asso.fr. Donc à ce moment-là, la guilde, pour avoir un nom, elle s'adresse à l'AFNIC, qui va lui faire un nom dans.asso.fr, donc ça va être guilde.asso.fr, et ainsi de suite. Et sous guilde.asso.fr, eh bien, c'est la guilde qui décide. Si vous voulez un nom de domaine, je sais pas moi, machin.guild.asso.fr, le président il est là.
C'est payant.
C'est payant dans guild.asso.fr.
C'est
le prix payant. Ça devrait pouvoir se régler à coup de bière, je crois. Alors, pour la plupart des TLD, il faut passer par un bureau d'enregistrement, comme même tous maintenant. Et donc un bureau d'enregistrement, c'est une entité qui va faire la relation entre quelqu'un qui veut acheter un nom de domaine et le registre. Donc le registre, par exemple pour .fr, le registre c'est l'AFNIC. Donc on ne s'adresse pas directement à l'AFNIC quand on veut acheter un nom en .fr, on va s'adresser à un revendeur de nom de domaine. À ce sujet, il y a Laurent Chemla qui a écrit un livre qui s'appelle « Confession d'un voleur », qui est intéressant à parcourir quand même, puisqu'en fait, voilà, les noms de domaine... quelque part, on vend quelque chose qui est infini, donc qui pourrait être gratuit en première approximation. Et donc, c'est ce bureau d'enregistrement qui a une procédure pour mettre à jour, soit automatiquement, soit avec des vérifications avec le registre, et donc, à ce moment-là, vous pourrez avoir un nom. Donc, par exemple, pour Resine.fr, le bureau d'enregistrement, c'est Gandhi, donc c'est la société qu'a fondée Laurent Chemla au siècle dernier. Et c'est cette boîte-là qui fait le registre avec qui fait le lien pardon avec le registre de .fr qui est l'AFNIC. Alors le gouvernement états-unien, donc j'ai mis US, j'ai oublié le A, pardon, a mis la main sur la racine, ça c'était dans les années 80 je crois, et en a délégué la gestion à l'ICANN depuis 1998. Avant c'était directement la National Science Foundation qui gérait la racine. Et donc l'ICANN délègue la gestion des TLD à... par exemple en France, c'est l'AFNIC, c'est une association, mais ça peut être... c'est VeriSign par exemple, une grosse boîte qui gère le .com et encore un autre, je crois. Enfin bon, on peut trouver tout et n'importe quoi. Alors il y a certains top level domaines qui ont des conditions très restrictives. Alors bon, là j'ai dénoté quelques-uns pour rire. Le .fr, par exemple, il faut être dans l'espace économique européen. Bon, ça va encore. Le .eu, c'est dans les 27 pays de l'Union européenne. Il y a un .archi qui existe, par exemple. Ça, c'est réservé aux architectes. Et puis alors, le .bzh, quoi. Celui-là, c'est mon préféré. Donc, il faut soit avoir une adresse en Bretagne, soit une activité liée à la Bretagne ou la culture bretonne, soit être adhérent de l'association www.bzh, ou alors un site web rédigé en breton. Ah, celui-là, il m'a plu, quoi.
Ah, 34, une page rédigée en catalan. Et formellement, il y a une différence entre les GTLD et les CCTLD ou...
Je pense que oui, la différence formelle, c'est que le CCTLD, en fait, il a été délégué à un pays. Et en fait, c'est le gouvernement de ce pays qui décide à qui il délègue la gestion du truc.
Ouais, mais après, quoi. Le gouvernement du pays, tu reconnais ou tu ne reconnais pas, quoi. Enfin, ma question en gros, c'est est-ce que .bzh, c'est un CCTLD?
C'est un TLD. Je sais pas. Non, je sais pas si Jean-Yves Le Drian gère le point BZH, quoi. Vois, c'est... Alors, après, on peut passer à la question de qui paye, puisque j'ai évoqué le prix des noms de domaine, puisque un nom de domaine, à part dans .eu.org, c'est tout payant, à ma connaissance. On peut noter que chaque structure va payer ses résolveurs. Donc ça, par exemple, si on est à l'NCMAG ici, il y a sur le réseau local, il y a des résolveurs qui sont accessibles, c'est l'NCMAG qui va se débrouiller pour les gérer. Chaque structure ensuite va payer la plupart de ses serveurs qui font autorité. Globalement, ce qu'on fait dans le milieu associatif beaucoup, c'est qu'on fait des échanges de bons procédés, c'est-à-dire qu'on va héberger un esclave pour la zone de tel asso, et puis tel autre asso va héberger un esclave pour notre zone. Je me suis planté dans l'ordre, ça. Depuis 95, les noms de domaine sont payants, donc ça j'aurais pu le mettre au début. Et ensuite, les prix d'enregistrement, donc à quoi ça correspond? Donc ça va payer des morceaux de serveurs de la racine, puisque les serveurs de la racine, en fait, le DNS, quand on va faire une requête, on va interroger tout plein de trucs, et ça c'est gratuit. Donc il faut bien que quelqu'un gère les... Enfin, soit payé pour les gérer, soit le fasse bénévolement, mais quand même il faut acheter des machines et ainsi de suite. Donc ça coûte pas rien. Quoi.
Les racines, qu'est-ce qu'ils sont interrogés?
Quand même. Donc les prix d'enregistrement, ça va payer des morceaux des serveurs de la racine, ça va aussi payer des morceaux ou la totalité. Alors je sais pas, j'ai fait un petit calcul après avec la FNIC, des frais des bureaux d'enregistrement et donc des registres. Donc pour la FNIC qui gère le .fr, je me suis épluché les bilans comptables et ainsi de suite, machin, c'était vraiment génial. Merci Julien. Alors on a 15 millions d'euros de chiffre d'affaires à la FNIC et on a 3 millions de noms en .fr à peu près, sachant que la FNIC gère aussi le .pm donc qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, le .re qui est la Réunion et encore un autre, je ne me souviens plus lequel, qui correspond à la Guyane. Donc pour ces top level domaines là, j'ai pas trouvé le nombre de domaines qui avaient été déposés. Et donc par contre dans leur rapport annuel, ils annoncent un coût de production de 3,5 € par nom déposé pour le .fr. Donc si on fait un bête 15 divisé par 3, on tombe sur 5 €. Donc qu'est-ce qui se passe avec ces 2 € qui restent, je sais pas. Alors si, en fait, je sais qu'est-ce qu'ils en font, hein, c'est que typiquement, la FNIC héberge une instance des serveurs de la racine. Donc voilà, il y a une partie qui va là-dedans, et puis, on s'explique peut-être pas toute la différence, mais globalement, voilà. Alors, ensuite, qui a du pouvoir sur tout ce machin? Donc premièrement, l'ICANN, évidemment, qui gère la racine. Eux, globalement, ils ont pouvoir sur le... sur vraiment la racine de tout l'arbre DNS. Alors ça dépend de la loi états-unienne et californienne. Et donc les deux questions qu'on peut se poser en fait, c'est est-ce qu'on peut avoir une racine alternative et est-ce qu'on peut accentrer. Donc actuellement le système de nommage il est décentralisé, c'est-à-dire qu'on a un centre mais qui est réparti ensuite de façon arborescente. Et donc on peut se poser la question de l'accentrer, c'est-à-dire qu'on n'est plus de centre du tout. Alors, pour avoir une racine alternative, il y a eu un essai, typiquement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'est appelé le point 42, qui était un truc rigolo, mais qui a marché un petit moment et qui ne marche plus du tout. Mais là, en fait, c'est possible, ce genre de choses, mais il faut que les gens dans leur serveur récursif, donc dans leur résolveur, mettent l'adresse IP du nouveau serveur de la racine. Donc ça veut dire que globalement les gens ne vont plus forcément accéder au même internet s'ils sont derrière un serveur qui va utiliser un serveur alternatif de la racine et les anciens. Il y a OpenRoute qui est quelque chose qui fait ça aussi, qui vend des racines alternatives, ma foi fort cher. Pourtant c'est un vieux monsieur qui s'appelle Louis Pouzin qui a fait ça et qui... Donc je trouve ça un peu bizarre, surtout qu'il le vend fort cher et je vois pas trop à quoi ça peut servir. Et ensuite sur la centralisation du système de nommage, donc on a des choses qui sont basées sur des protocoles genre BitTorrent, donc pair à pair. qui marche. Hein. Le problème, c'est que là, donc on peut enregistrer n'importe quel nom avec ce genre de système. Celui que j'ai vu, il s'appelle Namecoin. Par contre, on perd complètement le côté humainement interprétable. Puisqu'en fait, le nom de domaine en question, ça va être un condensat cryptographique d'un nom qu'on veut mettre. Donc on finit avec une suite de caractères complètement... c'est pas vraiment aléatoire, mais bon, c'est difficilement lisible. Ensuite, les opérateurs des serveurs de la racine, donc ça c'est grosso modo les gens qui sont admin 6 sur les serveurs de la racine, s'ils ont envie de foutre la merde, ils peuvent.
Ça c'est déjà fait.
Bah oui, j'imagine en plus quoi. Mais bon, ça c'est juste.
Rigolote, c'est sûr.
Et donc les serveurs de la racine, il y a 13 adresses IP, par contre c'est réparti sur 150 machines un peu partout dans le monde. Donc globalement, comme il y a des gens qui surveillent un peu tout ça, ils arrivent à voir s'il y a des choses sales qui sont faites sur une instance ou sur une machine particulière.
Le gouvernement chinois s'était fait exploser la gueule il y a quelques années. Ils avaient décidé qu'une partie des sites web dont ils n'étaient pas copains, ils allaient mentir sur les réponses du DNS. Sauf que manque de bol, l'IP était aussi joignable depuis la côte ouest des États-Unis. Et du coup, ça s'est vu. Et du coup, en quelque chose comme 3 ou 4 heures, ils avaient enlevé l'adresse IP de ce serveur racine de la liste.
Des machines unicastées, quoi, du coup.
C'est ça. C'est bien compliqué à expliquer.
Oui, alors, si je peux essayer de la refaire. Hein. En fait, donc, le gouvernement chinois avait filtre le DNS chez lui. Et donc là apparemment ils ont fait une connerie, c'est qu'il y a une des 150 machines qui est hébergée en Chine. Et donc ils ont forcé les gens qui administrent la machine à mettre les conneries directement dans la machine qui gère le DNS. Et comme cette machine qui gère la racine, elle est interrogée depuis aussi ailleurs, ça s'est vu quoi. Voilà. Alors ensuite, les opérateurs de registre, ils ont aussi du pouvoir, puisque donc typiquement l'AFNIC en France, par contre, eux, ils dépendent de lois nationales. Donc il y a des gens qui conseillent que si vous êtes en France, ça peut être intéressant de prendre un nom de domaine en .fr plutôt qu'autre chose, puisque disons que au moins vous savez quelle loi s'applique, puisque si c'est aux États-Unis, ça devient compliqué, par exemple. Les bureaux d'enregistrement aussi ont du pouvoir. Alors là, typiquement, c'est sur les procédures d'enregistrement, puisque tout le monde a envie d'avoir des procédures d'enregistrement qui soient faciles et sûres à la fois. Et ça, c'est un truc qui est contradictoire. Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai le nom de domaine grésil.org, et puis je veux pouvoir changer les enregistrements de mes serveurs de nom dedans pour aller pointer ailleurs. Il faut aller s'identifier sur le site et ainsi de suite. Ça peut être compliqué parce que on peut demander éventuellement une double authentification et ce genre de choses pour vérifier. Et ça permet d'éviter que n'importe qui dise « Tiens, les serveurs de grésil.org, moi je vais plutôt les récupérer pour aller les faire pointer ailleurs, comme ça m'arrange. » Mais bon, du coup, la procédure, elle n'est pas facile, mais elle est plus sûre. Donc là, à chaque fois, on a un compromis entre la facilité de changement et la sûreté. Il y a aussi les changements pour la propriété du nom de domaine directement. Et ça se fait pas mal. Il y a eu des histoires avec le ministère de la Culture et de la Communication, je crois, qui avait déposé un nom de domaine et qui a oublié de le renouveler. Alors évidemment, de suite, en plus c'était à une époque Adopi ou quelque chose comme ça, donc tout le monde s'est jeté dessus, quoi. Donc voilà, ils se sont fait carotter leur nom de domaine. Alors les fournisseurs d'accès ont aussi du pouvoir sur le DNS, ça on va en parler un petit peu avec les risques techniques, donc en faisant des résolveurs menteurs ou les coûts du trafic. Et puis évidemment les opérateurs de résolveurs DNS, donc ça, généralement les fournisseurs d'accès rentrent là-dedans, mais pas que. Parce que ça peut être aussi les admin 6 de l'NCMAC par exemple, s'ils ont envie de faire mentir le serveur DNS pour dire que Grazi n'existe pas par exemple, c'est possible. Donc voilà, je reprends mon transparent avec mes résolutions de DNS. Et là, j'ai mis des gros machins rouges avec tous les risques techniques qu'on peut identifier là-dessus. Alors, le premier, là, c'est le risque de panne des serveurs de nom. Donc ça, on l'a plus ou moins vu, c'est réglé en ayant plusieurs serveurs, donc maître ou esclave, hein, mais il y a plusieurs serveurs qui sont accessibles et qui peuvent répondre aux requêtes. Et donc les autres risques, je les détaille un petit peu après. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'opérateur du résolveur ici, il peut le faire mentir. Donc typiquement, et ça c'est pas très compliqué, hein, c'est juste dire, ben voilà, telle zone c'est moi qui la gère et puis elle n'existe pas, quoi. C'est ce que Free a fait pour bloquer les pubs de la régie publicitaire de Google. Il y a, je sais plus combien de temps c'était, 2 ans peut-être, un truc comme ça. Et quand ils ont annoncé qu'ils allaient bloquer les pubs, en fait, ils ont bloqué que les pubs de Google, et pas les autres. Puis typiquement, ils étaient en conflit avec Google sur autre chose, quoi. Donc voilà. Après, on peut faire de l'empoisonnement de cache. Alors ça, c'est vraiment un risque technique, vraiment purement technique. Ça consiste en fait, quand le résolveur va aller poser une question à un serveur de nom, c'est répondre avant le serveur de nom avec une mauvaise réponse. Et ça, bon, c'est une jolie attaque théorique, en vrai, c'est un peu compliqué, mais ça peut quand même se faire. Et puis ensuite, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la question que va poser le résolveur à tous les serveurs de nom, c'est la question complète, donc www.grezi.org. C'est pas juste, quand il va demander au serveur de nom de la racine, il va pas juste demander le serveur de nom de .org. Il va demander tout le nom. Et donc à ce moment-là, quelqu'un qui va opérer donc serveur de nom de .org ou de .com ou même de la racine, il voit passer toutes les requêtes DNS de tout le monde. Donc ça peut être intéressant. Alors donc pour éviter les DNS menteurs, la chose qu'on peut faire, c'est de opérer soi-même son résolveur DNS. C'est pas très compliqué. Donc on peut en installer un sur sa machine ou chez soi sur son réseau, sur une machine chez soi. Unbound est très bien pour ça. Il me semble que sur un Unix de base, il suffit de l'installer et puis ça marche comme ça tout seul, quoi. Je crois. Ensuite, donc pour éviter les pannes, ça je l'ai déjà un petit peu parlé, mais je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire que généralement tous les serveurs de nom qu'on met, qu'ils soient maîtres ou esclaves, mais ceux qui répondent au public, on en met chez différents opérateurs réseau. C'est-à-dire que pour Grezi, par exemple, on en a un qui est, enfin on en a deux même qui sont à Grenoble chez notre opérateur réseau, mais on en a un autre qui est à Theta Neutral à Toulouse, et encore un autre qui est physiquement, je sais pas où il est, mais il est en Allemagne, là-bas, en Lorraine, quoi. chez LDN. Donc LDN, c'est Lorraine Data Network. C'est aussi un fournisseur d'accès associatif. Et ensuite, donc là, c'est vraiment les attaques. Là, c'est la partie là où on rentre dans le vraiment technique. Donc pour résoudre les risques d'empoisonnement de cache de résolveur, il y a eu des RFC qui sont sortis avec une nouvelle norme qui s'appelle DNSSEC, donc DNS sécurisé. Et donc là, en fait, ça va pas mal complexifier le processus de mise à jour des zones DNS, puisque en fait, chaque zone DNS va être signée cryptographiquement avec une clé qui, elle, va être publiée. Donc en fait, ça marche cryptographie asymétrique, donc on a une clé privée et une clé publique. La clé publique, elle est diffusée dans le DNS et elle est remontée à la zone mère, c'est-à-dire que Grezi.org, par exemple, va... Alors, Grezi.org n'est pas signé, hein, mais si on était signé, on donnerait notre clé à .org. Et donc, ensuite, c'est quelque chose qui va être complètement arborescent aussi, de la même façon que le DNS lui-même. C'est-à-dire que la racine a les clés des TLD, les TLD vont avoir les clés des domaines qui sont dessous. Et donc les zones vont être signées par les serveurs de nom de chacune des zones. Donc on va créer des nouveaux types dans les fichiers de zone pour DNSSEC, donc DNSKey qui va permettre de donner l'empreinte de la clé publique, DS qui va permettre de donner la clé d'une zone privée. Et puis il y a un truc qui est rigolo, c'est que NSEC va permettre de prouver la véracité de la non-existence d'un enregistrement. Puisque, hein,
prouver que ça existe.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va prouver, le vide. Donc c'est un peu rigolo parce que la première NSEC, en fait, tout court, avait un système qui permettrait de dire quel est le prochain enregistrement. Le problème, c'est que ça permettait d'explorer toute la zone. Donc NSEC 3 résout ce problème. On ne peut plus explorer toute la zone en demandant le prochain enregistrement. mais on peut quand même être sûr qu'un enregistrement n'existe pas et c'est signé. C'est pas comment dire, c'est pas, on sait que c'est pas un résolveur menteur qui nous a raconté une bêtise au milieu. Ah ben j'ai déjà fini. Alors, donc les sources que j'ai utilisées, Stéphane Borsmeyer, dès qu'on parle de DNS, je pense qu'on peut l'appeler Dieu, quoi, c'est quelque chose comme ça. Donc il a un blog, ça va être borsmeyer.org, je crois, et tout un tas de conférences. Alors en particulier, j'ai utilisé celle qu'il a donnée à Il était une fois Internet sur le DNS. Ces conférences au JRS sur la sécurité du DNS, même si en fait j'en ai peu parlé là-dedans. Benjamin Bayard donc, avait fait une conférence sur le DNS et le mail où il parle beaucoup de DNS et un petit peu de mail après, et qui est assez intéressante. Les pages de Wikipédia sont globalement pas trop mal faites sur le DNS aussi, donc francophone et anglophone. Après il y a les RFC évidemment, si vous voulez savoir comment ça marche vraiment en détail. Puis bon, il faut toujours avoir au moins parcouru une RFC juste pour voir à quoi ça ressemble, c'est rigolo. Et puis le site web de la FNIC en particulier, où j'ai pioché tous les rapports bilan public et ainsi de suite de la FNIC. Mais merci, puis si vous avez des questions, ben, je vais essayer d'y répondre. Hein. J'ai oublié un petit morceau. Sur le risque de vie privée, là, il y a un groupe de travail qui est en train de bosser à l'IETF dessus. Donc il y a une RFC qui devrait sortir. Le groupe de travail s'appelle Déprive. Donc justement, pour éviter que les serveurs de nom voient passer l'intégralité de la requête, soit avoir un système pour qu'elle soit un peu cachée, pour que quelqu'un qui opère un gros serveur de nom ne voit pas passer toutes les requêtes qui se rapportent aux zones filées. Voilà, c'était le petit morceau que j'avais oublié.
Mais là-dessus, le travail du public n'intervient que entre le résolveur et le serveur de nom.
Oui.
Ouais. En général, tu n'as pas ton résolveur sur ta machine.
Moi, j'ai mon résolveur chez moi. Ouais. Alors, je ne l'ai pas sur ma machine, mais je l'ai chez moi. Oui. Et du coup, c'est mon adresse IP. Alors après, c'est vrai que si tu es chez un gros fournisseur d'accès, tu es noyé dans la masse.
Ouais. D'un autre côté, du coup, ton fournisseur d'accès...
Du coup, ton fournisseur d'accès, il est sale. Voilà.
Ah, mais du coup, entre la machine et le résolveur, il y a aussi un problème de vie privée.
Oui, alors là, de toute façon, oui, le problème... Oui, le problème de vie privée sur le résolveur, il y est, c'est sûr. Ça, c'est...
L'intérêt d'avoir son propre résolveur à soi. Mais du coup, si c'est... Parce qu'apparemment, il n'y a pas tellement de conflits que ça à faire sur ce que j'ai compris sur Resolver. C'est-à-dire que c'était assez simple. Oui. Pourquoi les PC n'en ont pas tous un par défaut
Ils en ont un par défaut, ça s'appelle DIG.
Il y en a... Mais en fait, ils en ont par défaut en plus, quoi. Juste, c'est pas un logiciel que tu peux facilement interroger. Mais toutes les applications, en fait, ont un Resolver DNS. Puisqu'elles peuvent aller demander un Resolver.
Oui.
Alors après, ce qui est possible de faire aussi, c'est de mettre une chaîne avec plusieurs résolveurs. Hein. C'est-à-dire, tu peux, ton PC par exemple, tu peux lui dire, va interroger le résolveur qui est là, puis le résolveur qui est là, tu lui donnes l'adresse de notre résolveur, et ainsi de suite. Ça a peu d'intérêt, mais ça peut se faire.
Si jamais je suis complètement paranoïaque, et que je veux absolument pas qu'on puisse voir quels sont les sites dont je désire avoir l'adresse DNS, en fait, c'est finalement pas possible, parce que il faut choisir, tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est choisir le point où on peut être espionné.
Oui.
Dans le ouais,
c'est triste, mais ça revient à peu près à ça. Parce que même en utilisant Tor, il y a un moment où on va avoir besoin d'un serveur DNS pour se connecter, quoi. Ou alors il faut vraiment jouer avec toutes les adresses IP, il faut tout avoir noté dans un coin et ainsi de suite.
Tu vois, c'est bien café, tu peux toutes les adresses IP sur un papier, et puis
après... Effectivement, ouais.
Le fichier host est toujours actif, on peut toujours utiliser des entre le fichier host.
Alors oui, après, si tu sais que dans les moments où tu ne veux pas te faire intercepter des requêtes DNS, tu sais que tu vas interagir avec un certain nombre de sites vraiment limités. C'est possible de les rajouter dans le fichier host de la machine. Ça, à ce moment-là, il n'y aura plus de requêtes DNS. Mais
si l'IP change,
si l'IP change, c'est la merde.
J'ai besoin d'un petit bout de JavaScript pour ma page qui peut pas marcher sans.
Ça c'est faut installer nos scripts sur les navigateurs, ça permet de s'habituer.
C'est une solution aussi.
Une question bête, c'est quoi les RFC sur laquelle tu as contribué ?
C'est des RFC, alors je n'ai pas parlé là, c'est des RFC qui parlent de Dane. Donc Dane, c'est un protocole qui va permettre de... Alors une fois que le domaine va être signé, on va rajouter des nouveaux types d'enregistrements qui vont permettre de spécifier en fait soit une autorité de certification, donc ça permet en fait de s'affranchir de toute la... Comment le dire poliment, de toute la pourriture qui traîne autour du milieu des autorités de certification qui sont reconnues par défaut. Et donc à ce moment-là, on peut mettre dans le DNS quelle autorité de certification qu'on utilise, ce qui va permettre, quand une autorité de certification se fait trouer, de ne pas avoir des faux certificats émis à son nom, ou même de mettre directement les empreintes des clés de certificat pour spécifier vraiment quel est le certificat utilisé sur un service. Et donc ça, oui, alors par contre, pour utiliser Dane, il faut absolument utiliser DNSSEC, parce que là, si on veut pouvoir être sûr que le certificat qui est annoncé par le DNS est le bon, il faut être sûr qu'il n'y a pas un DNS menteur qui trafique quel est le certificat au passage, quoi. Question, là ?
Ouais, moi j'ai plusieurs questions.
Ah, plusieurs.
La première, c'est la pratique qu'on a vu plusieurs fois de quelqu'un qui oublie faire son renouvellement et puis pouf, il s'aperçoit que son site n'est plus le même. Donc ça c'est... Est-ce qu'il y a une espèce de tentative de moraliser ça ou pas? Par exemple, je sais que Gandhi protège si on oublie de payer, à la seconde qui suit l'échéance, c'est pas racheté, c'est pas rachetable.
Oui. C'est exactement ce qui nous arrive à Grésy. On a oublié de payer. Et puis,
il y en a qui hésitent. Non, même pas. Seconde, c'est racheté par quelqu'un d'autre.
Oui, en fait, ça,
qui revendent ça très cher.
Ça dépend du bureau d'enregistrement. Et donc, ça rentre dans la complexité des procédures et ainsi de suite.
Il n'y a pas quelque chose. Est-ce qu'il y a une association qui relève la qualité morale des bureaux d'enregistrement pour éviter ce genre de conneries?
Ça n'existe pas. Pas à ma connaissance. Quoi. Mais.
Gandhi fut un temps, était très moral, et puis après ils se sont fait racheter.
Oui, enfin, ils ont été vendus.
Voilà.
À ma connaissance, il n'y a pas de procédure. Alors après, le choix d'un bureau d'enregistrement, c'est toujours un compromis, de toute façon. Hein. Soit on en prend un soit on prend n'importe lequel parce qu'on tombe dessus, soit on étudie un peu les procédures, et puis celui-là, il y a des procédures qu'on préfère par rapport à un autre, mais là, j'ai pas vraiment de bonne solution.
Une deuxième question, c'est quand on veut changer justement de bureau d'enregistrement, parce qu'on a pris le premier, la première fois, on est naïf, on prend le premier parce qu'il y a des trucs qui font bling bling partout sur la page web, puis après on apprend, et puis on dit merde, tu fais une connerie, on change. Il y a des procédures un peu...
Oui. Alors ça, il y a des procédures qui dépendent à la fois des bureaux d'enregistrement, à la fois des registres. Mais généralement, c'est possible, en fait, je ne sais plus si c'est payant ou pas, mais d'aller chez un... Oui, d'accord. Ah, j'ai un oui là, un non là-bas. Mais oui, c'est en fait, il y a des procédures qui permettent de dire, voilà, je veux changer de bureau d'enregistrement et passer chez un tel, quoi.
Et chaque bureau, il n'a pas son domaine, parce que...
Ben non. Non, justement, un bureau d'enregistrement, ça fait le lien avec un registre.
Enfin,
généralement, un bureau d'enregistrement, ça fait le lien avec quasiment tous les registres.
Tu ne peux jamais aller directement avec celui qui gère le registre.
Peut-être que si, peut-être qu'il y a des gens qui gèrent des registres qui font aussi bureau d'enregistrement. J'en connais pas, mais...
Celui pour
EU.org, mais EU.org, oui.
Il y a des Seychelles, si vous voulez. Et les Seychelles, c'est eux qui gèrent pour un formulaire par mail.
D'accord. Ah ouais, c'est comme EU.org. Ah non, ça a changé maintenant.
Non, fumé, disons.
Et justement, EU.org, EU, c'est un nom de domaine qui a été acheté sur un bureau d'enregistrement ou c'est un truc
spécifique? Fait,
est-ce que comme asso.fr,
c'est
un...
C'est... Il y a qui dans le tas? Il y a des gens qui étaient dans Gandhi au départ.
C'est Pierre Bessac.
Pierre Bessac, il y avait Chemla aussi, je crois, au début. Et en fait, ils ont, au moment où les noms de domaine sont devenus payants, ils ont réservé, dans le bureau, dans le registre de Org, ils ont réservé EU. Donc ils ont EU.org. Et puis après, ils distribuent gratuitement tout ce qu'ils veulent là-dedans.
C'est des gens bien.
Voilà. Puis il paraît que maintenant, ils sont même réactifs.
Ouais. Quand t'appelles Matt, il répond.
Et asso.fr, il n'est pas payant,
du coup. Asso.fr, je sais pas.
J'en sais rien. Je sais même plus si c'est possible d'en avoir complètement. J'ai eu une histoire comme ça. Même à la guilde, on ne sait pas qui est-ce qui renouvelle ou qui.
Franchement, la guilde, au début, ça a été gratuit. Il y avait une série gratuite.
Oui, on ne paye pas.
Pour la guilde, on ne paye pas parce qu'il a été pris à un moment où c'était gratuit. Et après, je crois que.
Par contre, quand tu vas voir qui est-ce qui. Enfin, t'as le. Tu peux demander quand tu es en train de jouer. Qui est-ce qui fait un nom de domaine?
Oui.
Tu peux avoir des infos et il y a une adresse, un nom, un bureau de téléphone, des gens que tu ne connais pas.
Sinon, ça ne doit pas représenter une somme formidable, quoi, j'imagine. J'en sais rien, mais.
Ah oui, mais
En fait, là, je peux pas demander. Il manque du réseau. Bon. Et en fait, on peut savoir avec. Donc, il y a un truc qui s'appelle. Un utilitaire qui s'appelle Whois sur Unix. Qui permet en lui donnant un nom de domaine de savoir à qui il appartient. Alors généralement, il y a beaucoup de bureaux d'enregistrement qui anonymisent entre guillemets les données, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir le nom et l'adresse d'un tel, quoi. Et par contre, c'est eux qui font le relais s'il y a besoin de les joindre.
Là, pour lui, pour son nom, son adresse pour le postage, peut-être le numéro de téléphone de la baraque.
Oui, tu peux tout mettre. Hein,
c'est... Bon, c'est une question, je peux faire mon fil à
l'heure. Le président, mais de toute façon, il y a une question.
Tu as assez peu parlé de risques politiques, surtout parlé de risques techniques, notamment, je fais le lien avec ce qui est passé sur la loi renseignement l'été dernier, où il y a tout un volet qui. La loi renseignement, c'est l'occasion de. Pardon. Donc, de l'hiver d'avant. Où il y a tout un volet qui parlait de la censure par DNS, en tout cas de la censure administrative des sites web. Le fait qu'un résolveur DNS soit situé sur un territoire national fait qu'il est soumis à la loi de son pays, forcément. Et donc, si jamais le gouvernement français, ou en l'occurrence la police, décide que grésilly.org, il ne faut plus répondre et renvoyer sur le site de la main rouge, si jamais les résolveurs sont en France, tant qu'il faut. Et du coup, il y a un truc très drôle qui est lié à ça, c'est que la loi prévoit actuellement que les résolveurs DNS à qui on peut imposer de mentir sont ceux des fournisseurs d'accès à Internet, parce qu'il est évident que les résolveurs, en fait, c'est le métier des fournisseurs d'accès à Internet. Donc on s'était dit que le jour où les gens comme FDN ou LDN, qui sont des FAI, devront mentir sur leur résolveur public, on créera une association qui n'aura pour objet que de fournir du DNS et qui donc n'aura pas l'obligation de mentir. La forme légale de la structure qui porte un résolveur peut avoir une importance aujourd'hui en France, c'est très rigolo.
Oui, sinon, typiquement pour FDN ou LDN, on peut aussi demander à nos camarades belges de Neutrinet de nous fournir un résolveur qui ment pas. Oui, alors ça, c'est sûr que la loi qui va s'appliquer, c'est celle du territoire physique en question, quelque part, quoi. Donc, quand je parlais des gens qui conseillent d'enregistrer des .fr, plutôt, quand on est en France, c'est juste parce qu'on connaît la loi. Après, si la loi française est vu ce qu'elle devient, il vaut peut-être mieux en enregistrer en .ch, par exemple. Je sais pas, tu vois.
C'est pas tant sur le... Mais ouais, si c'est bien en France, du coup, on est encore sous la loi française, non?
Oui.
malgré le nom de domaine.
Oui.
C'est pas tant sur l'enregistrement en fait que le risque est présent, c'est sur le résolveur. Là où on introduit une réponse fausse, là où on introduit le fait que tu vas avoir un mensonge et de la censure sur le DNS, c'est au niveau du résolveur, donc c'est au niveau de la personne que tu interroges en fait. Là, la personne.
Typiquement, la loi française peut obliger, enfin peut dire, voilà, ben, tous les gens qui fournissent un service de résolution de DNS, quand on demande pédodjihadiste, ça renvoie rien du tout.
.fr,
pardon. Ça existe. Ça existe. Je sais. Alors, c'est. Oui, c'est sûr que là, c'est. Enfin, c'est quand même difficile de se protéger en tant qu'individu contre ce genre de choses.
Et tu ne peux pas les récupérer.
Alors, si
après, le résolveur, tu peux t'adresser à n'importe lequel.
Si tu en mets un chez toi ici, disons que ce sera quand même interdit ce que tu feras. Hein. Mais bon, c'est comme traverser en dehors des coups, c'est interdit.
Oui, c'est pas interdit.
Si.
Pardon ? Utiliser un autre résolveur que VFI, c'est interdit.
Non, c'est pas interdit actuellement. Mais ça pourrait le devenir.
Ah, d'accord. Là, c'est juste un par le mais là, les Chinois, ils peuvent très bien aller chercher un résolveur aux États-Unis. Ou...
Alors, non, parce que les Chinois, c'est eux. C'est pour ça que tout le politique a mis à répéter, mais ils le font bien en Chine. Tu vois, c'est-à-dire que les Chinois, c'est tout le trafic qui est intercepté, et tout ce qui ressemble à une requête DNS, c'est trafiqué au passage. Quoi. Et là, c'est pas juste des résolveurs qui font
mais
ça.
Non, mais si tu arrives à. Aller vers un résolveur avec une adresse IP.
Les Chinois, ils se mettent là, ouais. Grosso modo.
Ah ouais. Oui, à la sortie du PC.
Ils sont aussi là. Hein.
Ils sont aussi là-bas.
tout ce qui passe, tout ce qui ressemble à une requête DNS, en fait, que ce soit. Parce que si tu as ton résolveur ici, en fait, c'est lui qui va directement aller là-bas. Mais ton fournisseur d'accès va le voir et puis alors je sais pas si les fournisseurs d'accès en Chine ils sont obligés de se connecter avec le grand firewall du gouvernement ou comment c'est légalement foutu là-bas mais ça revient à ça quoi.
Ouais. Ah oui, même si elle est faite ailleurs c'est une requête DNS donc ils savent que c'est.
Oui.
Donc comme ça si jamais par exemple tu prends un VPN en Chine là, normalement tu peux ou c'est pas possible.
Eh ben si, ça doit pouvoir être possible en fait de monter un VPN. Alors après peut-être que les principaux fournisseurs de VPN qui sont connus des gouvernements sont filtrés aussi. Mais bon, si t'en vas chez un petit qui est discret, tu pourras peut-être passer.
Il y a des problèmes sur le VPN parce qu'il mettait plusieurs niveaux de NAT.
Ouais, alors ça c'est encore autre chose.
Et du coup, comme il y a plusieurs niveaux de NAT, on peut pas tout traverser.
Est-ce qu'ils ne peuvent pas le reconnaître et le bloquer aussi d'ailleurs, le trafic VPN ?
Oui, mais là ça devient compliqué parce que tu peux faire du trafic VPN qui ressemble vraiment très beaucoup à du trafic HTTPS.
Ah oui.
Et puis si tu bloques le HTTPS, grosso modo, ouais. Tu bloques tout le commerce en ligne. C'est radical là. Donc ça c'est quand même un peu tendu.
Ça vaut ce que ça vaut, mais sur les VPN FDN qui sont utilisés par Reporters sans frontières en Chine, on a eu très régulièrement des problèmes parce que les gens n'arrivaient pas à joindre nos serveurs.
Oui,
c'est un peu le jeu du chat et de la souris, on change d'IP, on change de nom, et puis ils mettent à jour, et puis on rechange d'IP, on change de nom, mais c'est des choses qu'ils savent faire, même sur des petits fournisseurs qui pourtant sont censés passer sous bras.
Ouais, mais bon, les petits fournisseurs qui ont contrat avec RSF, de suite, c'est moins discret, quoi.
On leur a pas dit, on les a pas prévenus, donc.
Oui.
Et du coup, sur un VPN, quand on a sur un VPN, on spécifie un résolveur aussi
En fait, quand tu vas monter ton VPN, en fait, déjà, généralement, tu vas pas le monter avec l'adresse IP du serveur, tu vas monter avec le nom. Donc, il te faut déjà un résolveur pour pouvoir joindre. Et une fois que t'as monté le tunnel entre ta machine et le serveur, tu peux, donc, ça revient exactement au même, en fait, sauf que le résolveur que tu vas utiliser, soit il peut être sur ta machine, soit il peut être sur ton réseau local, soit il peut être fourni par... l'autre côté du VPN, en fait, une autre machine qui résout les noms aussi, quoi. Mais par contre, il t'en faut un pour pouvoir... Enfin, il t'en faut...
Ouais, non, si
tu peux joindre avec l'IP, mais Il y a peu de gens qui font ça.
Il faut faire attention que justement, l'un des gros dangers du VPN grand public, c'est que les gens ne modifient pas l'adresse de leur résolveur DNS. Du coup, ils ont tout leur trafic qui passe bien dans le tunnel qui paye à prix d'or chez je ne sais quel fournisseur commercial, mais ils continuent à interroger les résolveurs DNS d'Orange. Et du coup, bon, certes, Orange n'a plus le trafic en clair quand il va interroger YouPorn. En revanche, il a quand même la requête « Il est où YouPorn ?» C'est dommage.
C'est sur ta machine peut-être que dans ce cas-là est configuré le résolveur DNS.
Oui, le résolveur de la, le résolveur qui est utilisé, il est configuré sur la machine. Alors oui, c'est etc-resolve.conf dans Linux.
Ah, c'est pas ton, c'est pas DHCP qui te file.
Alors oui, il y a des systèmes généralement. Alors c'est vrai que sur les Linux modernes, il y a un truc qui s'appelle Network Manager qui fait tout ça pour toi. Tu peux aller à la main créer un fichier etc-resolve.conf et c'est celui-là qui va être utilisé en fait.
Okay. Et alors, gaffe, Network Manager, il le modifie.
Le fourbe. Donc, en fait, peut-être pas. Oui, il va être utilisé, mais il va être modifié aussi. Donc,
d'accord.
Donc, si. Pardon ?
C'est du résine. Tu connais l'adresse IP de.
Du résolveur de résine ?
Ouais.
193.33.56.26.
Il est public ?
Il n'est pas public.
Ah, il n'est pas public.
Il marche que depuis les IP de résine, tu vois.
D'accord. Et du coup, si tu VPN sur.
Oui, du coup, tu peux l'interroger, vu que, enfin, toi, en l'occurrence, tu peux l'interroger.
Parce que là, ce qui se passe, en gros, comment ça marche, du coup, quand je mets ton VPN sur VPN Resin avec ma machine?
Oui.
C'est forcément le précédent résolveur DNS qui avait été pris en compte par mon Network Manager qui va être utilisé pour...
Je pense que Network Manager récupère une config où, dedans, il y a pushé le... l'adresse IP d'un résolveur chez nous que tu peux chez Resin que tu peux utiliser.
De la même manière que DHCP s'est poussé et annoncé de la configuration pour le DNS, OpenVPN qui est le soft qui est utilisé par Resin et par d'autres pour faire du VPN, tu as des options qui permettent là aussi d'annoncer l'adresse du résolveur qu'il faut utiliser. Donc un peu que ton ordinateur soit configuré pour accepter gentiment ce qu'on lui dit, quand tu te connectes, par défaut, Resin t'annonce le résolveur, maintenant c'est moi.
D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, le résolveur de résine, c'est 193.33.56.30, pas 26. 26, c'est le serveur de nom. Je peux vous donner un IPv6 aussi, si vous voulez.
Et sur le route alternatif, là,
ouais.
Ça me paraît totalement... Enfin, c'est marrant, ce truc, parce que... En fait, s'il y a un route alternatif, c'est-à-dire potentiellement, vu la prédominance du DNS sur Internet, on peut faire un autre Internet, même si les machines sont reliées entre elles.
Ouais.
Vu que tout le monde parle
en nom de domaine. Ouais.
Mais du coup, il y a beaucoup de choses sur ces routes alternatives là. Sur, y en a.
Pour le point 42, en fait, ça a été utilisé parce que, alors à la base, c'est. C'est 5 gus dans un garage qui ont eu une idée un peu rigolote, c'est de faire une racine alternative. Ils ont utilisé le 42 parce que justement l'ICANN ne voulait pas de TLD numérique.
Ah.
Donc ils se sont dit, cela au moins l'ICANN elle ne le prendra pas, donc voilà, on peut jouer avec. Quoi. OpenRoute, par contre, alors je ne sais pas comment ils font parce que, en fait, il y a eu des noms. À l'époque où ils ont commencé leur activité, il y avait peu de TLD. On va dire farfelu, quoi. Il existait donc .com, .net, .info, les grands classiques, et puis les country code TLD, mais il n'y avait pas, parce que maintenant, des TLD, il y en a 300 et des pelletés, quoi. C'est les points archi, alors il y a aussi, il y en a qui m'ont fait rire, hein, parce qu'il y a le point photo au singulier, point photo au pluriel, point photographie, point je sais plus quoi, enfin bon, c'est merdier. Et en fait, si OpenRoute a distribué un nom avec un TLD comme ça, ça va forcément créer des problèmes, quoi. C'est-à-dire que, à la base, dans le résolveur, tu peux lui dire, ben, l'adresse IP de la racine, c'est la normale, plus en rajouter une autre. Mais si les deux répondent des trucs contradictoires, là, t'es dans la merde.
Et ce que je comprendrais, c'est la première autorité qui justement a autorité sur le tout ce qui est après le premier, quoi, .fr, par exemple, au début, c'est l'ICANN qui délivre ça.
Oui.
C'est ça. Mais alors, elle, c'est le point, mais il ne peut pas y avoir un autre point.
Ben c'est ça que je comprends pas. Si, si, tu peux créer une autre racine, c'est un autre point.
Mais alors, ça veut dire que quand va y avoir des requêtes DNS, ça va pas remonter jusqu'à l'autre. Enfin, ça va remonter jusqu'à quelle racine à un moment.
Après, c'est
pareil, c'est-à-dire
en fait, ton résolveur, en fait, il a les adresses IP de la racine. Tu peux lui changer ces adresses IP-là et mettre une autre racine. Mais voilà, t'as plus tout à fait le même internet que tout le monde.
C'est ça.
Ça, c'est...
Et se trouve qu'en général, quand tu fais une racine alternative, parce qu'il y en a plein, en général, tu reprends ce qu'il y a dans la racine en public et puis tu rajoutes des informations.
Donc, typiquement, tu peux. Enfin voilà, il peut y avoir aussi un moyen de donner des. Un espèce de DNS menteur, mais c'est parce que la racine alternative dit n'importe quoi.
Ah oui. Mais après, oui, par exemple.
Mais on peut pas se retrouver sous une racine alternative par pur hasard.
Bah, c'est le business model de gens comme OpenDNS, par exemple. Qui font du DNS récursif ouvert pour tout le monde, mais qui en contrepartie se permettent de mentir sur un certain nombre de réponses. Quand un domaine, par exemple, alors c'est plus vrai, mais à l'époque, quand un domaine n'existe pas, au lieu de te répondre, il n'y a pas de réponse, il te renvoie vers une page de pub. De la même manière.
Oh, tu devrais l'enregistrer.
De la même manière, quand tu y vendes à des sociétés le fait de pouvoir se servir de leur résolveur ou de leur racine, mais du coup ils peuvent configurer à la volée du filtrage sur tout un domaine, plein de sous-domaines ou sur certaines catégories. Enfin, ils vendent du filtrage et simplement en configurant du coup tel résolveur plutôt que tel autre, bah, tu te retrouves avec une vision déformée d'Internet et de ce à quoi tu vas donner accès aux gens.
Et dans les résolveurs, tu masques. Tu peux choisir qui peut t'adresser des requêtes.
Oui. Oui, mais c'est généralement considéré comme une mauvaise pratique de faire des résolveurs ouverts. Mais c'est quand même pratique qu'il y en a qui en fassent.
Après, c'est sale. Hein.
Parce qu'en fait, alors ça c'est le protocole DNS lui-même, on ne peut rien y faire. C'est assez facile de faire des attaques par amplification, donc pour faire distribuer des nids de service. Des services distribués à l'endroit, puisque en fait le DNS, le protocole de base, c'est de l'UDP, donc tu peux facilement changer ton adresse IP source dans le paquet, et donc à ce moment là tu envoies une adresse IP avec où tu poses une question à un serveur DNS où tu sais que la réponse est bien grosse, et donc il va renvoyer la réponse à la cible de l'attaque, en fait, et donc ça sert de vecteur d'attaque.
D'accord.
C'est pour ça que AFDN qui opère des résolveurs ouverts, l'opérateur réseau de FDN reçoit régulièrement des autres opérateurs réseau des plaintes que on s'est fait attaquer par vos serveurs DNS. Bah oui, voilà. C'est la vie.
Et pourtant, il y a quand même tout un. On essaye de faire du résumé, c'est-à-dire qu'on dit si jamais telle personne fait plus de temps de demande par unité de temps, alors tu envoies chier. Mais bon.
Oui, là c'est joué du chat et de la souris de toute façon.
C'est ça. Après il y a Bortzmeyer qui nous confie.
C'est quoi la philosophie actuelle de la FNIC quand il y a un conflit manifeste sur un point .fr, un nom est-ce que c'est toujours leur idée premier arrivé, premier servi, et après vous allez voir du côté de la justice
Oui, c'est ça.
Pas de médiation.
Ah bon?
En fait, les noms de domaine en .fr... celui qui est légitime en théorie, c'est une entreprise, une association, enfin un groupe de personnes reconnues. Sauf les particuliers peuvent prendre légitimement leur nom de famille. C'est leur nom de famille. Sauf si le nom de famille est une entreprise et qu'ils servent, entre guillemets, de la charte graphique de l'entreprise. Qu'ils induisent en erreur, en fait. Typiquement, si ton nom de famille c'est Milka et que tu as un blog sur Milka.fr, bah tant pis pour Milka. Sauf que si tu fais Milka et que tu mets en blanc et en mauve, et que tu mets une vache et que tu fais H, regardez, c'est une association, on fait du chocolat. Ça va pas
faire. En l'occurrence, Milka, c'est un mauvais exemple, puisque la.
Oui, c'est son prénom.
La femme qui avait déposé donc Milka.fr s'est retrouvée traînée en justice par Milka, donc c'est Nestlé, je crois, et elle a perdu. Hein.
Mais elle a perdu parce que c'est son prénom, pas de Milka.
Ouais. D'accord, mais bon, enfin, elle était couturière en plus, elle faisait pas du chocolat, ça avait rien à voir.
Mais ils ont cité des violets.
Ah, bon, bon, ça. De toute façon, les couleurs, c'est de la merde, hein, Julien.
Un nom de domaine, vous pouvez le garder, enfin, vous pouvez le commander, le garder. Par contre, si vous ne l'utilisez pas, c'est-à-dire que le site dessus n'est pas actif, ou il y a juste une page qui ne répond à rien, et que quelqu'un le veut, en fait, vous ne pouvez pas lui refuser en durée. Et par exemple, c'est interdit d'occuper des noms de domaine. Typiquement, Mélenchon 2017, vous ne pouvez pas le récupérer. Quoi. Enfin, vous pouvez le récupérer, mais le justice peut avoir raison.
Celui-là, je suppose qu'il est déjà déposé. Hein. Non, ou alors c'est des glands.
La question, c'est que la FNIC fait de la médiation. Ou s'il faut passer
en service,
oui. Alors, il me semble que justement, j'ai dit une connerie parce qu'il me semble qu'en arpentant leur site web dans tous les sens là, pour trouver des chiffres, il me semble que j'ai trouvé un endroit, un lien vers un bureau de résolution des conflits en fait. Donc, ça me rappelle quelque chose, mais je ne suis pas sûr de moi là.
Parce que parfois, quand tu tombes aussi sur des espèces de grossistes qui ont racheté par exemple les noms de domaine de tel et tel nom, et eux, d'après ce que tu me dis, ils n'ont pas le droit de te refuser de vendre le nom de domaine au prix que tu veux.
Pour .fr.
Ouais, mais.
C'est pas ça, c'est que si, par exemple, je sais pas quoi, tu veux faire un studio qui s'appelle Des Kiwis, et qu'il y a quelqu'un qui a réservé Des Kiwis mais qui fait rien dessus. En fait, ta demande est prise, enfin, t'es plus légitime à l'utiliser si t'as un studio en activité qui s'appelle Bikini, par exemple.
Ouais, mais là, par exemple, tu t'appelles Bikini, tu veux avoir Bikini.fr, et sur le site, s'il y a une grosse page, contactez-nous et proposez-nous un prix pour acheter le site.
Ça, c'est interdit en France. En France, c'est sur la ferme, normalement, c'est interdit. Okay. Tu peux pas occuper un nom de domaine juste pour le revendre.
Ça, c'est les règles de la FNIC. Après, généralement, ça se fait sur.
Ils utilisent ça sur des .fr, c'est pour ça que.
Après, le problème, c'est qu'il faut. Non, je pense qu'il faut aller vers la justice pour faire ça. C'est ça qui est embêtant.
Oui, parce qu'après, les .fr, tu vois, ils en ont 3 millions, quoi, donc ils vont pas vérifier tous les sites web.
Ah,
d'accord.
Et
comment tu fais? Bah, non, c'est possible d'utiliser justement ces pages-là, publicitaires pour. Pas Gandhi, mais les gens qui vendent des noms de domaine. Quand tu tapes sur. Tu peux tomber sur une 404 sur une erreur, donc sur un site web promotionnel, tu peux me proposer d'acheter un truc, c'est sans nom.
Alors, il y a deux trucs là, c'est soit le DNS qui te ment,
ouais.
C'est-à-dire le résolveur, lui, là, il va demander là, personne, ok. Enfin, il fait toute la chaîne, et puis il arrive au bout, no such domain, donc personne. Et lui, il décide, ah ben, si, plutôt que de renvoyer no such domain, tu vas renvoyer l'adresse IP de mon serveur web. Qui dit viens acheter le nom de domaine. Ça, c'est le premier truc, c'est un DNS menteur.
Mais il ne possède pas forcément ce nom de domaine.
Ah, il ne le possède pas forcément.
Ouais, c'est ça.
Et après, il y a quelqu'un qui peut posséder le nom de domaine et mettre une page web en disant je vends ce nom de domaine, contactez-moi.
Ouais, il n'y a pas une notion de possession de nom de domaine à part si toi tu le loues pour la durée de bail.
Je vois pas ce que tu veux dire.
Tu loues un nom de domaine.
Ouais.
Pour un an, pour deux ans. Mm-hmm. Quand ça arrive à échéance, il n'appartient pas plus à la société à qui tu l'avais précédemment acheté qu'à une autre.
Non.
Ouais.
Alors, il y a des bureaux d'enregistrement aussi qui le réservent pendant. Alors, il y en a qui peuvent le récupérer, mm-hmm. Et il y en a qui le réservent en fait, qui n'est pas utilisable pendant, je sais pas, 3 mois par exemple, pour Gandhi fait ça. Pendant 3 mois, le truc, si tu as oublié de le payer ou si tu ne veux plus, il n'est pas utilisable. Puis au bout de ces 3 mois, après, il y a quelqu'un d'autre qui peut le récupérer.
D'accord. Mais c'est pas réservé, moi, dit.
Non.
Il y en a qui sont pas rachetables, quoi. Par exemple, des .com, il faut être l'entreprise, fournir un cabis, je crois, un extrait de cabis pour dire que c'est bien l'entreprise. C'est pas rachetable,
après, .com, je suis pas sûr.
Je sais plus quel était le un extrait de cabis.
Généralement, dans tous les pays où il y a des .co, le nom du pays, il faut être une entreprise.
Ouais. Donc en fait, tu peux pas le racheter.
Par exemple, le TSD.com, il faut.
Pour revenir sur le .fr, si par exemple moi je distribue un logiciel avec un nom en .fr, si demain une entreprise se forme et ils n'ont pas de droit avec ce même nom, ils n'auront pas de droit sur mon domaine quand même.
Ça va se régler sur les tribunaux.
C'est un nom de marque.
Donc, mais généralement.
C'est le nom de marque.
Mais s'il n'est pas déposé,
Si généralement, si tu avais l'antériorité, il y a des chances que tu puisses garder ton nom de domaine.
L'antériorité, quand même. Ouais.
Mais c'est pas sûr.
Ah,
c'est pas sûr.
Parce qu'en tant que particulier, par exemple, sans cadre, sans avoir déposé de nom,
Après, ouais, c'est.
Si, à chaque fois dans des,
si tu veux être sûr, faut déposer la marque. Quoi. Ouais, mais bon, oui, non, je suis d'accord.
C'est pas du européen.
Tu crées une association avec ta petite sœur. Ouais,
ou ta grande sœur, ça marche aussi.
Pardon ?
Ta grande sœur, ça marche aussi.
Oui, oui.
Sur le Wiz là de la FNIC, ça marque que le site de la guilde, il expire le 25 juillet 2016.
Ah,
bah, c'est un coup de
tiens
bête,
alors. Ouais. J'ai bien fait de faire une conf, hein.
Sur la FNIC, c'était pas la FNIC qui a un
temps de compte, si tu veux. Sur les points FR, il y avait un temps de la FNIC de relance.
La date de début, 26 novembre 1997.
Ah ouais.
Oh, petit joueur.
Petit joueur. Orange,
quand j'ai déménagé les DNS, les zones de FDN, la date de création du domaine, j'étais pas né.
Ouais, c'était quand
94,
15. Ah, ouais. J'aurais dit plus vieux que ça.
Je crois que le bureau a été créé après et du coup.
Du coup, on recontacte.
Ah ouais, bah, va falloir peut-être vous en occuper.
Ouais.
Si vous voulez pas que ça fasse comme à Grésil.
Est-ce que si on peut pas fondre les points assos.fr, parce que c'est une problématique.
Bah oui, après,
il
en prendra un autre, quoi, mais bon, c'est sûr, ça fait chier de migrer tout un domaine, c'est pénible.
Comment ils font dans ce cas-là quand ils décident que assos.fr, ça n'existe plus? Ils se chargent de.
Ben non, c'est toi qui es dans la merde, c'est pas
ça. Ouais, ils se chargent pas d'avoir une espèce de pseudo-fichier host, un endroit qui dit que chaque fois que tu vas demander à asso.fr, ça renverra vers le nouveau domaine de la personne. Non.
Il faut prévoir avant.
Ils ne pas décider ça.
Oui, enfin, ouais,
c'est trop tapé dessus.
Non, ça m'étonnerait, globalement, à mon avis, il y a moyen de le garder ce truc-là.
Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'un bureau d'enregistrement fasse défaut et du jour au lendemain s'arrête. Il se trouve que les bureaux d'enregistrement, des fois, ils servent aussi ils fournissent des serveurs faisant autorité. Et il est arrivé plusieurs fois dans le passé qu'un bureau d'enregistrement, du jour au lendemain, paf, faillite. Et tu te retrouves avec tes noms de domaine qui ne marchent plus. Et ça se résout parce qu'en généralement, t'as des gens qui reprennent et en l'espace d'une semaine, c'est réglé. Mais tu peux te retrouver dans des situations où t'es dans le domaine.
Généralement, c'est
une semaine. Quoi.
Généralement, c'est pile poil quand t'en as bien besoin.
Ouais.
C'est une Murphy.
Mais bon, et c'est de l'information du. Pendant une semaine, elle peut être encore en cache sur le. Sur des machines du DNS
ou pas.
Enfin,
mais si c'est ton bureau d'enregistrement qui gère tous tes serveurs de nom.
Ah oui, c'est qui gère les. Ouais, bah ouais.
Oui, elle est en cache chez eux, quoi. Sauf que chez eux, c'est plus joignable. Plus de questions, remarques, tout ça. Merci pour votre attention.
Merci. Merci.